Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver avec dans ce studio Catherine, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carreau. Bonjour à vous quatre.
Bonjour. Bonjour.
Au sommaire de cette émission, t'as pas 100 balles, le gouvernement au secours des classes moyennes avec un chèque inflation, comme l'a décrit le Premier ministre Jean Castex aux 20h de TF1 jeudi soir. 100 € donc dans le portefeuille de chaque salarié gagnant moins de 2 000 € net par mois et ce dès décembre, et pas que des salariés d'ailleurs. Cadeau électoral ou vraie mesure économique, nous verrons ce qu'en pensent nos grandes voix. François Hollande de retour en librairie. L'ancien président publie Affronté, livre-programme, un peu, se révèle surtout en tonton flingueur envers la classe politique quasi tout entière, à commencer par Emmanuel Macron, bien sûr. Lui aussi a fait parler de lui, mais avec un fusil. Éric Zemmour a-t-il dérapé au salon Millipol en pointant une arme vers les journalistes et en traitant Marlène Schiappa d'idiote pour avoir réagi sur Twitter sans humour? Dérapage de trop ou erreur de communication? Vous avez le programme, les grandes voix, c'est parti. C'est le cadeau de la semaine. 100 balles, 100 € pour 38 millions de Français, qu'ils soient étudiants, retraités, salariés, entrepreneurs, fonctionnaires. Le casting, c'est qu'il faut gagner moins de 2 000 € net par mois. Tout part de la hausse du prix de l'essence. Oui, mais tout le monde n'est pas automobiliste. Alors, il y a aussi le chauffage. Le gouvernement a préféré appeler cela le chèque inflation. Deux façons de voir cette aide. Soit c'est une mesure économique, soit c'est un cadeau électoral.
Écoutez, j'allais vous répondre spontanément. C'est une mesure 100% électoraliste.
Ah,
et puis,
merci, monsieur.
Nous sommes une émission de réflexion et de gens mesurés.
Donc, oui.
Je vais être mesuré.
Parce que là, vous faites en même temps.
Je vais corriger légèrement mon propos. C'est une mesure qui n'est que 90% électoraliste et 10% économique.
Ah.
Voilà. Bon, écoutez, c'est simple. À 6 mois de la présidentielle, il faut éviter à tout prix un nouveau phénomène gilet jaune. Le président Macron arrose le plus grand nombre, parce que c'est vrai que 38 millions, ça fait du monde, c'est 2 Français sur 3, mais sans répondre aux réels besoins des classes moyennes, moyennes et moyennes supérieures, c'est-à-dire ceux qui gagnent entre 2 000 et 4 000 € par mois. Et d'ailleurs, François Hollande, dont on parlera tout à l'heure, dans son livre, rappelle que le salaire en France, le salaire moyen, pas le salaire médian, le salaire médian est à 1800, le salaire moyen est à 2 200 €. On est en plein dedans, les classes moyennes, ceux qui se lèvent tôt le matin, qui font 40-50 km, les infirmières, les professeurs, bon, tous ces gens-là, eh ben, n'auront pas accès à la prime. Voilà pourquoi je dis que c'est une prime qui est purement électoraliste pour arroser le maximum d'électeurs potentiels.
Charles Villeneuve.
Moi, je trouve que c'est une mesure plutôt intelligemment pensée. Parce qu'elle est visible, parce qu'elle est significative, parce qu'elle est simple et aussi parce qu'elle allège la facture du carburant, quoi qu'on en pense et quels que soient les calculs. Beaucoup plus qu'une baisse mineure des taxes qui ne serait pas répercutée à la pompe. Ça concerne 38 millions de Français pour un coût de 3 milliards 800 millions. Ce n'est pas négligeable pour des Français qui gagnent entre 1 400 €, 1 800 et 2 000 € net par mois. Cela étant, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi on peut bloquer le prix du gaz jusqu'en 2022 et pourquoi pas celui du pétrole? Pourquoi on ne nous l'explique pas?
Emmanuel Macron a dit qu'il ne pouvait pas revoir la fiscalité sur l'essence parce qu'il dit manipuler la TVA, ce n'est pas possible en droit européen.
Est-ce que je voudrais juste ajouter un mot? Je ne suis pas en désaccord quand tu dis que c'est une mesure intelligente.
Déclaration directe.
Mais électoraliste n'est pas forcément...
C'est pour ça que j'ai précisé intelligemment pensé, parce que bien évidemment, ce que tu as développé, toi, en tête d'intervention, c'est-à-dire électoraliste, c'est vrai.
Bon, mesdames
c'est vrai que là... C'est une mesure de revenu d'engagement contre l'inflation, voyez. Donc le gouvernement fait quand même le pari que cette hausse des carburants est peut-être transitoire, parce qu'elle correspond, après la Covid qui a impacté tous les pays, à une absence, à un besoin accru de
mobilité,
d'avoir du pétrole, donc les prix montent, et donc ils pensent que les économistes pensent que ça va se réguler, que le prix va retomber, comme c'est arrivé maintes fois dans l'histoire, parce que comme on l'a vu d'ailleurs,
c'est
encore
une bulle, en gros,
c'est une bulle, et que donc il fallait agir et donner 100 euros. Mais 100 euros, c'est à la fois, est-ce que ça va casser? Est-ce que ça va empêcher les gilets jaunes de revenir à partir du mois des prochains week-ends? Je ne le crois pas, parce que 100 euros sera donné au moment de Noël. Et je dirais, c'est à la fois un geste politique, mais c'est à la fois une goutte d'eau qui ne correspond pas aux besoins des Français.
Ça ne règle pas le problème.
Ça ne règle pas le problème, parce que quand on voit que si.
Non, mais ça l'allège quand même.
Ça l'allège quand même. Mais si on donne.
C'est mieux qu'un coup de pied aux fesses.
C'est mieux qu'un coup de pied aux fesses. Mais surtout, on se rend compte de l'état de la France, si quand même 38 millions de Français sont exigibles de cette prime de 100 euros. Ça veut dire aussi que le revenu est quand même
très bas.
Ouais. Et donc, ça donne une géographie économique de la France qui est un peu désespérante. Alors, voilà.
On voit bien les deux craintes. Hein. On voit bien les deux craintes de Macron. Un, c'est la reconstitution des Gilets jaunes. Ouais. Il a eu peur. On lui a dit, vous avez réagi trop tard, vous avez laissé trop de temps.
Oui, parce que la configuration est exactement la même en 2018.
Encore que, ce qui est bizarre, c'est que le prix de l'essence est à 35% de moins cher qu'au moment des Gilets jaunes. Mmh. Donc c'est quand même une volonté électoraliste, on ne peut pas dire le contraire. Il ne veut pas que se développe dans les 6 mois qui viennent une contestation quelconque. Et puis je crois vraiment qu'il s'est posé la question de la baisse des taxes. C'est vrai que c'est quand même une usine à gaz, la baisse des taxes. En plus, une fois qu'on la baisse, d'abord, c'est quand même l'État qui perd de l'argent. Là, vous me direz que là, il paye 4 milliards. Mais c'est vrai que baisser les charges, c'est toujours horriblement difficile parce que après, on ne peut plus les remettre.
Non, mais c'est surtout aussi une mesure écologique, puisque à la fois Bruno Le Maire, qu'encore une fois Emmanuel Macron hier soir, disait si on baisse les taxes, ça veut dire que c'est tout le monde à la pompe, y compris les gens qui conduisent des grosses voitures polluantes.
Oui. Voilà. Pierre, il y a quand même le premier réflexe, notamment de Barbara Pompili, qui a voulu noyer le pigeon, en quelque sorte, enfin le poisson, si vous voulez, qui jette l'opprobre sur la honteuse marge des distributeurs, marge qui n'excède pas, je le rappelle, 2 centimes par litre. Oui. L'objectif est ici clair, faire oublier les presque 60% de taxes portant sur le carburant. 60% de taxes. Mm. Quant au... par rapport à la réflexion de Catherine Ney sur le fait que 100 euros... Bon, il ne faut pas oublier qu'un grand pays libéral, d'économie libérale comme les États-Unis, par l'intermédiaire des chèques fédéraux, ont depuis la pandémie déboursé pour, pas les plus fortunés, mais je dirais... La bourgeoisie moyenne, 1 800 $ par Américain et jusqu'à 3 200 $ pour ceux qui sont les moins pourvus.
Mais il y a quand même un point. Moi, il me semble qu'on entre avec cette mesure et bien d'autres, parce qu'elle ne fait que s'empiler avec un certain nombre de primes de ceci, primes de cela, primes de rentrée
scolaire.
On est de plein pied et de plus en plus dans une société de l'assistanat et du pansement étatique. À quand, bientôt, vous me direz, ça existait dans le passé, ça existait encore à la SNCF il n'y a pas longtemps. À quand une prime de godasse, par exemple, une prime de chaussures ou une prime de portable? On dira les portables, il y a des composants de plus en plus rares, donc de plus en plus chers.
Mais cher. Au prix où sont les chaussures.
Et ainsi, non mais sérieusement, les portables, sérieusement dans une démocratie moderne, je pense à l'Allemagne, aux Pays-Bas, à d'autres pays, quand il y a un problème de pouvoir d'achat, on déclenche une grande procédure de négociation collective et on décide. Et là, je pense qu'en France, il y a véritablement un problème de pouvoir d'achat.
Michel Cotard.
Il y a un problème de salaire.
Oui, mais il y a sûrement un problème d'ailleurs.
Mais en même temps, le pouvoir d'achat, les salaires ont augmenté.
On fait du pansement. Mais si on préfère le pansement, on fait le pansement.
Oui, et puis, non, mais là, ça s'ajoute quand même, à beaucoup d'autres choses. On ne peut pas à la fois dire qu'il a réagi trop tardivement aux Gilets jaunes, et à la fois, on a 4 milliards de chaque inflation, où il s'ajoute aux 600 millions de renforcement du chèque énergie, et aux 5 milliards ça fait beaucoup, c'est pas illimité. Alors on nous explique que c'est effectivement compensé par les 20 milliards qui seront en plus cette année parce que la reprise est plus vite. Il est évident quand même qu'on ne peut pas aller au-delà.
Comme l'écrit Hollande dans son livre, à mesure que 2022 approche, les milliards sortent de nulle part pour aller je ne sais où. Donc lui-même, Hollande, il sait de quoi il parle, il donne une leçon.
Il donne une leçon à ma...
Oui, je sais, dans ce matin, il disait qu'il faut augmenter les salaires. Ça ne suffit pas d'augmenter les salaires.
Non, mais c'est vrai.
Non, ce qu'il y a de vrai, c'est que le gouvernement refuse de s'attaquer au problème des taxes pour une raison très simple. C'est une recette de 2 milliards 200 ou 300 millions. C'est tout. Voilà, il faut bien de toute façon Bruno Le Maire, aller de remplir les caisses, oui, oui. Enfin, alors, tenter de remplir
et ne pas toucher à la TVA, justement. Eh bien, puisque le prix de l'essence augmente, eh bien, l'État va toucher plus d'argent, ce qui lui permet de donner aussi en partie le chèque. Hein.
Oui, la TVA sur les taxes, c'est quand même quelque chose, c'est une vraie spécialité française.
Je vous propose d'en reparler
sur la taxe.
Juste après une première pause, les grandes voix, Gérard Carrère, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. À tout de suite sur Europe 1.
10h, 11h,
les grandes voix d'Europe 1. Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Les grandes voix d'Europe 1, Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. C'est pas ce que dit François Hollande, s'écrit il y a plusieurs années le journaliste Dominique Souchier sur Europe 1, et pour tout vous dire, c'était devenu un gimmick dans notre rédaction. C'est pas ce que dit François Hollande, et bien si, cette fois-ci il le dit haut et fort dans son livre « Affronter chez Stock ». Affronter qui ? Affronter quoi ? Un peu tout le monde. À en voir le catalogue de désingage qu'est ce livre. Macron saute de nénuphar en nénuphar comme une grenouille, image trouvée pour illustrer ses changements de cap. Jean-Luc Mélenchon, un boulet pour la gauche, ça c'est fait. Zemmour, petite chose, n'est pas Trump qui veut, même en miniature, etc. etc. Si vous êtes friand de dîner costard, ouvrez-vous un Saint-Estèphe, Élysée Hollande, vous allez déguster. Quant au programme, il y en a un. C'est un New Deal à la française, un SMIC à 1900 euros, là c'est plus 100 balles, hein, même s'il y a une multitude de chèques ciblés pour compenser une tarification carbone. Qu'est-ce qu'il fait, François Hollande, exactement avec ce livre, Les Grandes Voix?
Il prend position. Alors,
Michel Cotta, dans le micro, s'il vous plaît.
Alors, il prend position, au fond, dans la campagne électorale que va déclencher Hidalgo. Il soutient Hidalgo, mais il soutient pauvrement.
C'est la seule avec laquelle il est plutôt tendre.
Oui, il est un peu plus. Sauf qu'il souligne quand même qu'elle était contre les Jeux Olympiques.
Une
et
femme
elle en a
de sang-froid, de détermination et ténacité.
Oui, enfin, il y a quand même quelques petites vacheries, mais bon, qui sont secondaires par rapport à... Non, je pense que ce qu'il veut, c'est quand même compter dans l'élection. Je ne crois plus du tout qu'ils veulent... participer, mais beaucoup de gens le croient encore, comme vous savez, au Parti Socialiste, même au Parti Socialiste, les gens se disent...
Ils le pensent ou ils l'espèrent?
Je ne suis pas sûre qu'ils l'espèrent, je ne suis pas sûre que personne ne l'espère.
Je suis certaine que personne ne l'espère.
Ah, voilà. Non, mais lui-même, lui-même, je crois qu'il a quand même tourné la page, mais tournant la page, il veut quand même compter, et compter sur un programme en reprochant forcément à tout le reste, et surtout à Macron, de ne pas avoir de programme. Alors, ce qui est drôle, c'est de voir que pendant des années, on a dit sur Macron, sur Hollande, « Ah, il n'a pas de vision, ça, on ne sait pas où on va, etc. » Et maintenant, c'est lui qui dit sur Macron, il ne sait pas où il va, il saute d'un nénuphar à l'autre. Preuve que quand on est dans l'opposition, on est quand même plus tranquille que quand on est dans la majorité.
Catherine Ney.
Non, moi je crois qu'il sort un livre aujourd'hui parce que, pour ne pas être oublié, hein, d'abord. Et pour être, il en revient, il est de nouveau une sorte de nouveau premier secrétaire qui attend la suite pour recomposer la gauche quand elle sera sortie... de toutes ces ennuis de la... Voilà. Mais je crois que ce qui le démangeait depuis longtemps, c'est ce qui correspond au début du livre, c'est en mettre un coin contre Macron, parce qu'il n'a pas digéré d'avoir été trahi par quelqu'un qui lui a menti et dont il n'a pas vu. Donc il était assez naïf, assez aveugle pour ne pas voir ce qu'on lui disait. Attention, il va partir, il est en train de se préparer pour la présidentielle. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu le voir, qui n'a pas compris. Et lorsqu'on l'a mis devant le fait accompli, c'est quelqu'un qui est à la fois déçu d'avoir été trompé par un homme dont il s'était entiché. Il était joyeux. Il a dit un jour, Emmanuel Macron, c'est moi, comme Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi, vous voyez. Il le défendait. Et là, qu'il se soit moqué de lui, comme il s'est moqué de lui, ça, il ne l'a pas supporté. Et c'est pour ça qu'il l'attaque aujourd'hui, qu'il lui dénie absolument toute capacité de travailler, de gouverner. Et c'est d'abord une vengeance contre Macron. Et cette vengeance est extraordinaire parce que vous voyez, il a parlé, alors qu'on pensait qu'il serait fâché définitivement aux deux journalistes d'AV et L'Homme et qui viennent de faire un livre contre Macron, il leur a parlé pour leur dire ça. Voilà, tout ce qu'il pensait de mal de Macron, il ne l'a pas digéré. Mais donc, ça, moi, j'ai trouvé extraordinaire qu'il parle à ces gens, à cause desquels, d'ailleurs, il ne s'est pas présenté à la présidentielle.
Est-ce qu'on peut rappeler quand même que c'est la vengeance d'un homme qui a quitté le pouvoir avec 12% ou 13% d'opinion favorable, alors qu'Emmanuel Macron est à 40%?
Oui, on peut rappeler.
Quand on est trahi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Catherine, totalement. Il a l'âme de l'homme trahi.
Et quand c'est presque du dépit amoureux, vous voyez, c'est une chose.
Voilà. Quand on est trahi,
d'où Madame Bovary.
Quand on est trahi par un homme ou par une femme, ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux.
Les deux, quelquefois.
On ne met jamais en cause sa propre action. On ne se dit jamais « c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça ». On dit « c'est un salaud » ou « c'est autre chose encore, c'est une femme ». Ça, c'est le ressentiment. Et ce livre, il a deux, à mon avis, effectivement, ressorts. Le premier, le plus fort, peut-être le plus actif dans le livre, c'est ça. C'est le ressentiment de l'homme qui a été trahi. L'amoureux, l'énamouré, l'énamouré président de la République de son secrétaire général adjoint, puis ministre, qui se venge d'une certaine manière, effectivement.
C'est risible,
oui,
Gérard.
Non, mais c'est pas risible, parce que...
C'est tout simplement humain.
Pardonnez-moi, j'ai un autre ressenti.
Il se venge.
Vous avez le droit d'avoir un autre ressenti.
Une autre lecture.
Je vous aurais donné ma deuxième raison. Oui. La deuxième raison, je crois, pour l'écriture de ce livre, c'est pas seulement le ressentiment. La deuxième raison, c'est que, à l'encontre de tout ce que probablement pense la grande majorité des Français, l'ancien président de la République pense qu'il a encore une possibilité infime de jouer un rôle.
Un ultime
souffle. Il a un chiffre en tête qu'on voit dans les sondages là, de ces derniers jours. Il y a plus de 60% des électeurs de la gauche. Ça, le peuple de gauche, ça a existé pendant 40 ans. Plus de 60% de ces électeurs ont la nostalgie de l'union de la gauche et d'un candidat commun à gauche. Ils voudraient avoir... Or, il détaille avec complaisance les différents candidats, il donne ses appréciations, il les égratigne.
C'est plus que jamais une guerre de boutique.
Lui, en sous-main, en sous-texte, dit... Et si je peux être capable de rassembler tout le monde, si vous me donnez, si effectivement Madame
Il se rêve en premier secrétaire
qui refait l'union de tout le monde, et on dit le mieux placé pour incarner cette union, c'est lui après tout.
Moi j'ajoute deux choses. Non. Moi j'ai beaucoup vu Hollande. J'ai beaucoup vu Hollande au moment où justement tout le monde lui disait il vous trahit, et à moi il m'a dit ça c'est pas vrai, je n'y crois pas. Et au fond il est d'autant plus violent avec Macron maintenant qu'il a été plus naïf avec lui avant. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, je ne crois pas qu'aujourd'hui il pense qu'il puisse se présenter. Il pense que maintenant c'est trop tard, que la maire de Paris fera ce qu'elle pourra, le nombre de voix peut-être un peu plus. Mais en attendant, je crois que son désir de se présenter n'est pas pour aujourd'hui. Il avait simplement l'envie de dire voilà le programme social-démocrate que j'aurais dû faire.
Et que j'ai pas fait, mais c'est trop tard.
Voilà. Ah, tu veux dire qu'il se présentera dans 5 ans alors?
Charles Villeneuve.
Oui, moi je crois ça. D'ailleurs, il te donne un programme et il part en tournée électorale dans les librairies plutôt que dans les meetings.
Ah ben, ça se fait comme ça maintenant.
Manifestement. Et son livre est aussi lucide, si tu veux, donc cruel, sur le jeu des autres, qu'il est aveugle ou muet sur celui qui a été le sien.
Mais oui.
Et je trouve que quant à Anne Hidalgo, dans son livre, il lui taille un costume de grande mesure florentine. C'est tout à fait à la Médicis. Il n'en fait pas partie, parce qu'il y a très longtemps, évidemment, que la République de Florence a existé. Mais regardez, par exemple, il pose cette question, tout en lui rendant hommage, en disant que c'est une femme de grande ténacité. Est-elle en position d'aller plus loin et plus haut? Alors qu'il rappelle qu'elle avait promis de se consacrer entièrement à sa mairie. Et il a beau jeu tout de suite après de se tenir ferme sur son identité socialiste. C'est la technique de la dague au coin du couloir des palais florentins.
Il la soutient, il la soutient un peu comme la corde soutient le pendule.
Et d'ailleurs, tout à l'heure, je crois que c'est Catherine qui rappelait que il est allé se confesser à deux journalistes, Davé et L'Homme, qui en ont tiré un livre, un président ne devrait pas dire ça, qui a largement contribué à sa non-représentation pour un deuxième quinquennat, largement. Et c'est à Pierre Moscovici, qui est reproduit dans un autre livre, le traître et l'être, de Davé et L'Homme, le nouveau Davé et L'Homme, où il avoue que Macron l'a trahi avec méthode et décrit la méthode.
D'ailleurs, c'est une nouvelle pause, chers amis, et on reprend juste après.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Retour des grandes voix avec Michel Cotta, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve et Catherine Ney. On parlait, Catherine, du livre de François Hollande et c'est vous qui aviez la parole, justement.
Oui, pour dire qu'est-ce qu'il cherche dans l'immédiat. Alors d'abord, le fait qu'il dise qu'il est temps de refaire la refondation de la gauche, ça prouve qu'il ne croit pas du tout à l'élection de Dan Hidalgo. Alors bon, il dit « je la soutiens, c'est elle, très bien », mais il n'y croit pas. Mais pour l'instant, d'abord, il veut se réhabiliter. Et ce dont il a envie, c'est d'avoir un rôle un peu comme à Nicolas Sarkozy avec son camp. C'est-à-dire, on vient le voir pour le consulter, un soutien, pour pouvoir dire « je l'ai vu ». Je ne sais pas grand sage, mais je l'ai vu, parce que voilà, il y a encore une admiration pour Nicolas Sarkozy qu'il n'y a pas encore pour l'instant pour François Hollande. Ça, il doit créer ça.
Mais en d'ailleurs, tout cas, il vient au secours de Nicolas Sarkozy. Enfin, en ce qui concerne ses rapports avec la justice.
Ben oui,
est plutôt dans le camp de Nicolas Sarkozy.
Oui, mais vous savez, quand vous avez vous-même créé la société de transparence de la société, plus le parquet national financier, qui sont deux armes de destruction massive, au moins de certains juges idéologisés, je pense que, il a lui aussi peu balayé dans sa porte.
Il va prendre du bureau.
Il a commencé par en souffrir lui-même.
Il va prendre des bureaux rue de Miromesnil. Alors du coup,
il les a rue de Rivoli.
Ah ben c'est pas très loin.
Et c'est très embêtant d'être rue de Rivoli parce qu'il peut pas garer sa voiture devant son bureau.
Mais devrait appeler Madame Hidalgo pour ça.
Eh ben oui, parce qu'il a donné l'autorisation à Madame Hidalgo d'avoir la conduite, d'avoir le choix de faire ce qu'elle voulait à Paris.
Non, je voudrais quand même l'attaquer sur le dur, parce que là on ne fait que parler de ses intentions qu'on lui prête ou pas. Moi, j'aurais quand même, regarde, parce que l'essentiel du bouquin, il y a 300 pages consacrées à une sorte de programme pour le cas où
le fameux nous viendrait.
Et je prends un seul exemple, mais les Français sont quand même intéressés par ça, c'est le nucléaire. Il y a des moments où je me dis, mais je rêve, qui a décidé en France
De fermer Fessenheim.
Alors, vous me direz, c'est Macron qui l'a fermé. Oui, parce qu'effectivement, ça n'a été fait.
Qui lui-même, sur le sujet, n'est pas clair.
Mais là, on a un chapitre de M. Hollande qui est celui-ci, intitulé, page 153, « Le mensonge de la sortie du nucléaire ». Et ce chapitre est une apologie du nucléaire. Alors, je ne vais pas vous le citer, je vais prendre deux phrases. Il explique qu'on peut faire des recherches sur des centrales sûres dont les déchets seront plus simples à enterrer, etc. Ces recherches existent. Rien ne dit qu'elles aboutiront, mais rien ne dit le contraire. Alors ça, c'est contraire à toute la philosophie dite des écolos. Et puis, il serait irrationnel de se passer à court terme du nucléaire. Et il préconise effectivement une part substantielle de nucléaire dans la production d'électricité, au moins 40% en 2050, et là, on a l'impression... Moi, je partage ça. Je pense qu'il a tout à fait raison. Mais simplement, j'avais l'impression, il me semblait que les socialistes ne disaient pas la même chose quand ils étaient au pouvoir.
C'est pas tout à fait vrai.
Ah bon,
il a toujours été pour le nucléaire, mais simplement, c'est pour des raisons politiques.
Il n'a pas fait tellement
sentir. C'est pour des raisons politiques. Parce qu'il avait besoin des écolos, et donc il a fait ce qu'il fallait pour les écolos. C'est plus facile de ne pas gouverner, d'être dans l'opposition et dire voilà ce qu'il faut faire. Et au moment où on est au gouvernement, effectivement, on ne fait pas toujours ce qu'on peut faire pour des raisons électoralistes.
Et il dit même, pendant cette période transitoire, nous devons éviter l'erreur de l'Allemagne qui a réduit la part du nucléaire. Je croyais que... Je n'avais pas entendu là qu'on avait condamné Merkel.
Il n'a pas condamné Merkel.
Vous êtes une avocate formidable pour lui.
Mais sincèrement, Michel, une chose est quand tu es chef d'État, de prendre une position, notamment celle qu'il a pu prendre sur le nucléaire. Une autre est, lorsque tu es sorti du pouvoir, faire tout d'un coup l'apologie du nucléaire.
Oui, on n'est pas obligé.
Deux langages fondamentalement différents.
On n'est pas obligé de
faire schizophrène.
Ou alors faire son meilleur culpa.
Oui, on aurait dû faire comme ça.
Oui, mais il se réfère à François Mitterrand, qui est l'un de ses modèles. Et François Mitterrand disait toujours que le peuple français est un peuple sans mémoire. C'est-à-dire que vous pouvez rester au pouvoir pendant 5 ans, puis après on vous oublie, puis dire n'importe quoi, parce que les Français ont oublié.
C'est pas dire n'importe quoi. Je vous assure que dans le Parti Socialiste, ça a été une vraie rupture, cette histoire de nucléaire. Il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Et Mitterrand avait tranché pour le nucléaire. Et Hollande, à ce moment-là, avait suivi Mitterrand. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait au gouvernement ce qu'il avait dit à l'Élysée, ce qui était sa conviction.
Je pense qu'on sera tous d'accord que dans ce livre, mis en exergue par Gérard, est poursuivi aussi sur un véritable programme. Parce qu'il ne parle pas que du nucléaire, il parle des salaires, de la sécurité, de l'État-providence, de la santé, de la justice, de l'Europe. Il a un vrai programme électoral.
Mais alors tu vois, moi, je l'ai lu en diagonale, parce que c'est un programme, c'est vrai, mais qui sera applicable quand? D'abord, il faudrait qu'il soit candidat pour pouvoir en 2027, ça on verra.
Est-ce qu'il donne la date?
Non, il donne pas de date. Moi, je vais te dire, quand je vois un programme, tu vois, à la campagne, je crois que j'ai un rayonnage entier de livres, repenser le socialisme, la social-démocratie, le génie du socialisme, des trucs comme ça. Oui, et moi, quand je vois ça, tu vois...
Sur la droite, il y a aussi...
C'est un Doliprane direct.
C'est un Doliprane, voilà.
On va marquer une pause et on vous redonne la parole juste après.
Ça vaut rien à la revente, ces livres-là.
Bon.
Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine et Michel Cotta, on parle dans un instant de Zemmour, mais Michel, vous vouliez rajouter un mot sur le pourquoi du comment de ce livre de François Hollande.
Oui, le livre quand même sort exactement le jour, on va 2 jours avant, la relance de la campagne de Anne Hidalgo. Et je me demande derrière tout ça, mais si j'ai peut-être assez mauvais esprit, mais je me demande si derrière tout ça, il n'y a pas... Regardez, voilà le programme social-démocrate que je n'ai pas fait quand j'étais au pouvoir, mais que vous, Anne Hidalgo, vous n'avez pas. Parce que pour le moment, Anne Hidalgo n'a pas de programme.
Voilà, si elle a 3 mesures, c'est doubler le salaire des enseignants, les 32 heures.
32 heures,
et sortir du nucléaire.
Oui, il lui a démontré dans le bouquin qu'effectivement, il ne fallait pas sortir de nucléaire, Madame Hidalgo. Lisez le bouquin de M. Hollande.
Affronté chez Stock, voilà le bouquin de François Hollande. Alors pour Zemmour, on n'en est plus à une surprise près. Alors quand le candidat au débat en visite au salon Millipol braque un fusil d'assaut sur les journalistes en leur disant « ça rigole plus, hein ? Est-ce un bol ou juste une blague, juste de l'humour ?» Polémique sur polémique. La ministre de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a immédiatement tweeté en disant que c'était horrifiant, surtout après avoir sérieusement dit c'est Zemmour qui disait vouloir réduire le pouvoir des médias. Zemmour réplique à nouveau en traitant Madame Schiappa d'idiote, qu'elle ne comprenait rien à l'humour, selon lui, une arme dont elle est déperdue. Les deux. Imbécile en Twitter et idiote en leçon. On a passé le son sur Europe 1. Donc il y a les deux.
Pardon, excuse-moi.
Et à nouveau, la question se pose, que cherche-t-il à faire, Monsieur
Zemmour?
Non,
mais moi, je crois que c'est un geste enfantin et imprudent, dont la portée elle-même ne dépasse pas le périphérique. Pourquoi? Parce qu'on ne pointe jamais le canon d'une arme sur un être humain, quel qu'il soit. Jamais. Tout armurier, et aussi bien à l'armée, dans la police, dans toutes les forces de sécurité, on vous le recommande. Il faut vérifier avant tout, toujours, avec l'éjecteur, si dans la chambre de tir, il y a une cartouche. Balle. Et de regarder le canon, de lever l'arme, de regarder le canon si le canon est libre. Et c'est un geste, de toute façon, de précaution que lui-même aurait dû se rappeler, parce que je pense qu'il le sait, simplement. Alors, cela étant, de tweeter alors qu'on siège au Conseil du gouvernement, qu'on est en réunion avec le président de la République, comme l'a fait Marlène Schiappa, ça passe un peu les bornes aussi. De toute façon, c'est l'assurance de faire une polémique politique. Elle a réussi sur ce plan-là, indéniablement. Mais Cela étant, ça ne va pas plus loin. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le sondage et l'étude massive qui a été publiée par Le Monde.
On va y venir, mais sur le geste.
Sur le sniper, dans un premier temps, moi je me suis dit, bon, effectivement, c'est une grosse plaisanterie. Alors, je dirais, c'est le genre plaisanterie de garçon de bain. Est-ce qu'on peut être candidat à la présidence de la République et faire ce genre de petites conneries? C'est-à-dire de prendre un fusil comme
un... Bon. C'est pas n'importe quelle arme.
Mais ça, c'était ma première réflexion. Mais il se trouve que j'en ai parlé à quelqu'un qui connaît bien les États-Unis et qui m'a dit immédiatement, d'ailleurs. Oui, quelqu'un que je connais bien, m'a dit immédiatement, ah, avec un geste comme ça, aux États-Unis, ça lui serait jamais pardonné.
Ah oui.
C'est parce qu'effectivement...
Ou on pardonne tellement d'autres choses en Amérique
Armes. Oui, mais les armes, justement, parce qu'il y en a tellement en Amérique, et dans chaque maison, il y en a au moins deux ou trois, sinon plus, on fait... Dès les enfants, à 5 ans, on leur dit surtout jamais, jamais braquer, même un pistolet en plastique.
Mais
on le fait d'ailleurs.
Tu l'as vu avec l'incident catastrophique.
C'est ce que j'allais dire, Baldwin. Alec Baldwin qui tue avec un pistolet de cinéma, si j'ose
chargé.
Donc, si vous voulez, il y a une réaction qu'il ne faut pas sous-estimer d'une partie de notre opinion, parce que le problème Zemmour, à l'heure actuelle, c'est un autre sujet, mais le problème Zemmour, c'est que c'est un peu l'affaire des journalistes, Zemmour, et puis d'une fraction de l'opinion. On n'est pas sûr que toute l'opinion soit encore tout à fait en mouvement, en prise directe là-dessus. Et un sujet comme celui-là, que les journalistes ont tendance, et moi le premier, je le disais, à prendre un peu comme une blague, peut être un sujet plus profond pour une partie de l'opinion, une tendance lourde qui dit mais après tout ça se fait pas, c'est des choses qu'on fait pas,
mais ça on ne doit jamais se faire,
on ne fait pas et on ne doit pas le faire.
On voit effectivement on le voit qu'il le fait avec plaisanterie parce qu'on voit sur les images
rigoler,
il sourit, mais il braque quand même les journalistes et ça ne se fait pas. Et à mon avis, ça ne peut pas se faire pour un candidat. Ça peut à la rigueur se faire pour un candidat qui n'en est pas encore un. Mais c'est surtout que ça va de pair. Ça va de pair quand même à une remise en cause des contre-pouvoirs. C'est vrai que là-dessus, je comprends assez bien la réaction naturellement partisane de la ministre.
De Marlène Schiappa.
De Marlène Schiappa, qui est... il attaque systématiquement les contre-pouvoirs. Contre-pouvoir de la presse, contre-pouvoir du Conseil constitutionnel, contre-pouvoir des cours internationales de justice. Et là, c'est une attaque un peu brutale du contre-pouvoir que représentent les journalistes. Je remarque d'ailleurs que les journalistes, avec un temps de retard d'ailleurs, ont dit hier, et si on partait, si on laissait les choses, et puis ils ne partiront pas, ils laisseront les choses. Mais il est évident que Zemmour, candidat, à mon avis, ça lui aurait fait un dommage considérable. Non candidat, à la rigueur, on peut l'oublier.
Catherine Ney.
Bon, mais vous avez déjà presque tout dit, mais moi j'ai trouvé que c'était un geste enfantin, mais qui en disait quand même long sur ce qu'il peut faire, ses dérapages, vous voyez.
Il en a commis d'autres.
Ça vous met mal à l'aise, on a l'impression.
Mais ça me met mal à l'aise, je me dis, peut être imprudent, et maintenant, il est dans une phase où on lui pardonne tout. Moi, ce que je ne lui pardonne pas, c'est d'avoir traité Marlène Schiappa d'imbécile. Voilà. On ne traite pas une ministre d'imbécile. Il a une manière, il aurait pu répondre avec de l'humour, que c'était un jeu et tout ça. Et que je trouve qu'avec les femmes, il a la gâchette facile, vous voyez. Et quand il parle dans ses livres des femmes, moi je le trouve très... Je suis étonnée que les féministes n'aient jamais réagi à ce qu'il disait sur Strauss-Kahn, sur le prédicateur musulman qui a violé des femmes,
Tariq
Ramadan, où il est très très très, vraiment, il le défend. Et je suis étonnée que les féministes n'aient pas réagi à cette nouvelle écart.
Parce que c'est le premier livre, c'est surtout dans son premier livre, Le suicide français, qu'il a dit ça, puisqu'il a fait remonter tous les problèmes politiques au fait que les femmes se soient mêlées de politique. Et alors vraiment, ça a été un désordre considérable. On n'a rien dit non plus, d'ailleurs. Les femmes n'ont rien dit non plus.
Mais ça prouve qu'elles ne disent pas son livre, sûrement, alors. Oui. Franchement, je ne sais pas.
Oui, mais il y a quelque chose à se demander. Est-ce que l'opinion va réagir de manière classique ou de manière fiévreuse? Classique, ça, je veux dire par là ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire voir le côté critique de ce geste. Ou alors de se dire, comme je lisais un papier de Bourlange, Jean-Louis Bourlange, qui est député, qui est macroniste donc, qui n'est pas du tout zémourien, mais qui disait finalement le phénomène Zemmour, c'est la rage et l'effroi d'une société catholique, bourgeoise, plus encore que populaire, qui est saisie d'effroi et de rage par l'avènement d'un monde qui la marginalise et prétend effacer tous ses repères culturels, politiques et religieux. C'est l'explosion du woke et de la cancel culture qui a mis le feu aux poudres. Si c'est ça, je ne sais pas si c'est ça, mais si c'est cette deuxième interprétation, c'est-à-dire si c'est véritablement une révolte, comment dire, de fond sur les repères sociaux, culturels, etc. Alors là, l'histoire du fusil, du sniper en carton-pâte ou réel n'aura aucune influence. Parce que, je veux dire, la vague l'emportera. Mmh. Mais peut-être qu'on restera dans quelque chose de plus mesuré, de plus classique.
Charles, moi, je crois que le discrédit des partis de gouvernement est maintenant installé au cœur de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, l'enquête à laquelle vous allez faire allusion, sur laquelle vous allez nous questionner, Pierre, le montre très bien. La confrontation entre des candidatures hors système et des candidatures anti-système apparaît dans cette enquête et n'a pas du tout disparu et ressemble à l'élection présidentielle de 2017. Alors, le dégagisme.
Justement, c'est l'occasion de faire une pause et on revient juste après.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Ah, je peux vous dire qu'il y a de l'ambiance avec Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta. On parle d'Éric Zemmour et on parle surtout de cette étude du CEVIPOF qui est non plus faite sur un échantillon de 1000 personnes, mais là sur beaucoup plus, Charles Villeneuve.
16 822 personnes.
Et qui, évidemment, donne des indications, notamment sur Éric Zemmour, puisqu'on parle de lui.
Mais elle répond en partie à ma question que je posais juste avant la pub. Je dis, elle est simple la question. Est-ce que c'est un phénomène passager qui va durer ce que durent les roses un peu plus quelques semaines et qui va rétrograder comme un certain nombre de phénomènes du même genre connus précédemment dans l'histoire? Ou alors est-ce que c'est une lame de fond qui est alimentée par des motivations très puissantes comme, et c'est ce que posait d'ailleurs ce macronien que je citais pour dire qu'effectivement c'est probablement un problème de fond qui est posé.
Oui, voilà. Parce que cette étude qui est profonde, qui est importante, révèle qu'il y a une dynamique autour d'Éric Zemmour qui change la donne et le niveau d'entrée au second tour des élections présidentielles. En avril dernier, ce ticket d'entrée se situait au niveau de 25%. Il est aujourd'hui à 16%, 9 points de moins, puisque Éric Zemmour est à 16, à pratiquement égalité avec Marine Le Pen, qui est à entre 15 et 16 points. Mmh. Elle aussi, Zemmour siphonne d'ailleurs une bonne partie de son électorat. C'est en cela que la dynamique existe.
Ça continue, voilà. En fait.
Oui, oui. Non, mais ce que je trouve bizarre, pardon, juste, je finis sur l'enquête. L'enquête montre aussi, en contrepartie, que Zemmour inquiète les Français.
Une 57%.
57%.
Ouais. 57%. Ben oui, c'est quand même
et
beaucoup.
Et qu'il est démagogique, 56%. Mmh. Alors que Marine Le Pen a fait à peu près les mêmes chiffres.
Catherine.
C'est-à-dire qu'il y a une image quand même de Zemmour qui n'est pas forcément collable avec les votes.
Mais d'ailleurs, ce qui contribue à différente. Ça, ce qui contribue
est-ce que vous à ça. Oui.
Non, mais on ne peut pas en aligner une. Hein.
Catherine.
Non, mais franchement. Non.
Allez, vas-y, Catherine.
Non, ce qui est intéressant avec Zemmour, c'est qu'il reprend exactement les propositions de Jean-Marie Le Pen, qui dit lui-même, Éric et moi, on a les mêmes idées. Bon, mais Éric Zemmour, il va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que Le Pen, il y avait la France d'un côté, la mauvaise France de l'autre. La bonne France, c'était les Blancs, c'était tout ça. Et les mauvais, c'était les immigrés qu'il fallait arrêter. Et Zemmour va plus loin. Lui, la mauvaise France, ce sont les musulmans, en incluant évidemment les musulmans de France, qui sont français, qui peuvent se sentir très agressés par lui. Or là, si vous voulez, ça serait Le Pen qui dirait ça. Aujourd'hui, on dirait c'est pas possible, il y aurait des manifestations. Or là, il y a une forme d'acceptation de qui est Zemmour, d'inertie, de non, même la gauche ne réagit pas à ça, ou elle n'est pas entendue en tout ça. Donc il y a eu... Alors, c'est Le Pen qui a cette explication. Il dit, mais dans le fond, Zemmour, à la différence de moi, peut tout dire parce qu'il est juif. Donc, il ne peut pas être considéré comme un nazi, comme un fasciste. Et donc, il peut dire des choses qui heurteraient si c'était moi qui le disais. Mais parce que c'est Zemmour...
C'est Jean-Marie Le Pen qui dit ça.
Et il a raison de le dire. Parce qu'aujourd'hui, sa fille, elle s'adresse peut-être au peuple, mais on ne l'entend plus. je veux dire, elle a complètement gommé, elle n'est plus dans la succession du père, vous voyez. Tandis que celui qui a succédé...
Elle
a voulu se dédiaboliser.
Ouais.
Bon, mais là, aujourd'hui, dédiaboliser, Zemmour, il est au-delà, et on voit que tout le monde dit, alors il dit, c'est formidable. Vous voyez, Zemmour, c'est la victoire de Le Pen.
Oui, et en même temps, en son sens-là, j'avais dit il y a plusieurs semaines, c'est Trump. Parce que c'est comme ça que Trump a gagné. C'est en étant dans l'exagération.
On n'est pas Trump qui veut, dit François Hollande dans son livre.
Oui, on n'est pas Trump qui veut, c'est vrai. Mais c'est moi, j'ai vécu le mécanisme qu'a porté Trump au pouvoir. Je ne dis pas ce qu'il a fait après, mais je parle de l'accession au pouvoir. Oui. C'est très exactement le même type de motivation des populations.
Michel.
Alors, je pense aussi que sur Trump, on voit très bien quand même que c'est un de ses inspirateurs souterrains de Zemmour. Et c'est vrai que ce qu'il dit...
Il n'y a qu'à voir son affiche d'ailleurs, l'affiche de campagne, Make America Great Again, et la couverture du livre de Zemmour.
Une de ses premières déclarations, pour donner raison à Catherine, lorsqu'une de ses premières déclarations, c'est de parler de Vichy, mais je pense au scandale que ça aurait fait si Marine Le Pen avait dit Pétain, ça a été ça aurait fait un scandale formidable. Pour le moment, tout coule.
Merci les grandes voix, et on dit bonjour à Laurent Mariotte.
Bonjour
Pierre. Bonjour les grandes voix. Comment ça va ?
Ça va.
Très bien. On vous emmène aux champignons avant les grosses gelées aujourd'hui. Et puis nous allons aussi faire un beau dossier, puisque c'est les vacances, sur les fermes auberges et les nouvelles auberges populaires et gastronomiques à la fois. Et Fabrice Eboué sera avec nous.
Bonne émission, Laurent.